Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Kan yele le bish Kuk riske rasish Sitting ask a bari Ene ne bai manish Alohye mithi Grundink ye honsh Wizerit Ethiopia Mintit abkialish Fitzum Ethiopia wit Anama di mama Wizerit Ethiopia Conjit in a name by Tramach would a fit Wichiba de babai And Nika wimalin Anchin Bakufi miai.
C'est un voyage intercontinental que nous vous proposons cette semaine grâce à deux cinéastes français qui ont réalisé il y a peu un documentaire fort émouvant consacré à un chanteur et pianiste éthiopien, Girma Beyene, dont la destinée les a conduits à imaginer ce film tourné en France, aux États-Unis et en Éthiopie. Mais au-delà de ce périple musical très attachant, c'est une aventure humaine qui nous intéresse aujourd'hui. Éric Rebu et Pierre Guillaulux, soyez les bienvenus.
Merci.
Merci, cher Joe.
Il y a quelques semaines, j'ai eu le privilège de voir en avant-première votre film « My Beautiful Girma ». Et je dois dire avoir été fort séduit par ce personnage Girma Beyene, dont vous comptez admirablement l'épopée à travers une narration délicate et bienveillante, car l'histoire de ce monsieur est vraiment touchante. Comment l'avez-vous rencontré ? Saviez-vous que vous alliez filmer sa renaissance, en quelque sorte ? Éric ?
Alors, comment on l'a rencontré ? Par le biais du batteur d'Akaléoubé qui s'appelle David Georgelet, qu'on connaissait, voilà, c'est un ami d'amis. Moi, j'avais déjà été voir des concerts d'Akaléoubé. Et j'ai vu en 2015 le concert du retour, donc Girma Beyene, mais j'ai tout de suite été frappé par déjà l'énergie du concert et puis l'authenticité du bonhomme qui a 70 ans, qui revenait sur scène, enfin ça je l'ai appris après, et qui a tout donné, tout le public était sous le charme, c'était un super concert, donc j'en ai parlé à mon frère d'armes Pierre Guillaulux qui est en face de moi. Et c'est là qu'on a rencontré David, donc tous les trois, il nous a expliqué que Girma revenait en France après 35 ans d'exil et pour enregistrer un album avec Akaléoubé. Et là, on s'est dit avec Pierre qu'il y avait matière à faire quelque chose, mais on ne connaissait pas du tout encore le personnage. Et voilà, c'était le début de l'aventure.
Rappelons que Girma Beyene avait disparu donc, des scènes internationales depuis facilement 25 ans après le décès de son épouse, Segene. Est-ce qu'on peut dire que votre film fut une libération pour Girma Beyene ? On le voit tout au long de ces 52 minutes, on le voit s'ouvrir.
Une libération, oui. C'est-à-dire que tout au long des 3 ans et demi que le tournage a pris pour ce film, on le voit dans le film changer, même physiquement. C'est-à-dire qu'au début, c'est quelqu'un de très timide, très pudique, qui est très taiseux, qui parle pas beaucoup. Et puis, au fur et à mesure des concerts, de cette tournée qu'il y a eu avec Akaléoubé, il s'est ouvert, il a repris confiance en lui. Donc, c'est vraiment une forme de libération. Et puis, il y a cette complicité énorme qu'il a avec les musiciens. Et puis il y a Francis Falsetto, dont on va parler aussi, qui est un petit peu le chef d'orchestre dans l'ombre, qui a rendu ce projet possible, enfin le retour de Girma en tout cas possible.
Pierre.
Nous, on a été immergés rapidement, puisqu'il parlait de 3 ans et demi sur ce film. Le problème au début, c'est qu'on ne savait pas un petit peu ce qu'il en était de cette union entre un groupe assez jeune qui est Akaléoubé et Girma qui revenait un petit peu des oubliettes. Comme tu le disais, Francis Falsetto a quand même été le chercher. C'est quand même Francis qui est quand même à la base de tout, hein, de ce rassemblement, de cette renaissance musicale, c'est lui. Hein. Il va chercher Girma pour l'amener vers Akele Oubé. Et Akele Oubé était bien sûr surpris qu'un bonhomme comme celui-là, un petit prince éthiopien, allait devenir ce qu'il est devenu après ce qui s'est passé. Le propos, c'est que Guerma était touché par la manière dont des musiciens assez jeunes le récupèrent, l'accueillent. Et à partir de ce moment-là, il se passe ce qui se passe. Mais nous, on a été immergés pendant 3 mois de retrouver Guerma avec les musiciens et puis de voir un petit peu comment il était, comment il se sentait. Au début, un peu timoré, comme tu dis. Puis après, il se libère.
En fait, il est timoré, mais il ne faut pas oublier que c'est Guerma lui-même qui a demandé à Francis de lui trouver un groupe. C'est comme lui qui est le moteur de tout ça et qui voulait un son moderne, en fait, parce qu'il a une oreille, il est au courant de la musique moderne, enfin, il est très au fait de toutes les musiques, il est curieux de tout, enfin, il parle toujours d'arrangement, de musique, c'est pour ça qu'il y a une espèce de complicité hors âge, en fait, avec les musiciens qui étaient comme des enfants, en fait. En studio, on a vu, nous, on se faisait tout petit pour pas les gêner, pour pas essayer d'abîmer cette complicité, mais Guerma, en studio, c'est un gamin, vraiment.
Ouais, comme, il est pudique. C'est vrai que c'est Francis qui nous a dit ça, qu'il est venu un peu chercher Francis en disant, voilà, t'as fait ça pour Mahmoud Ahmed, t'as fait ça pour d'autres personnes, tu peux le faire pour nous, mais c'était entre oui, je veux bien que tu le fasses, mais je sais pas, enfin un peu une réaction un peu, ouais,
hésitante,
pudique, hésitante, c'est impur, hein, c'est un puriste.
Vous avez eu la gentillesse de nous confier quelques extraits sonores de votre documentaire. Nous allons donc suivre pas à pas la résurrection d'un artiste trop longtemps oublié.
Well, I got a problem, I mean, you know. I didn't study, and I regret that. I mean, I'll try working.
Can you sing it again? You want to sing it again?
Yeah. And there goyen it to get them yalu tersi.
C'est ça, ouais.
That's a love song, a love.
Record the version. It's
very nice. But I want you to play, you know, this mistake by purpose, on purpose.
Okay, we can try.
Inside.
I will try.
Means make it jazz.
Éric Rebu, Pierre Guillaume Lux, nous venons de découvrir la toute première répétition de Guerma Beyene avec le groupe français Akele Oubé. Quelle était l'ambiance dans le studio?
L'ambiance était, je dirais, chaleureuse, très joyeuse, avec les musiciens évidemment qui étaient super heureux d'enregistrer cet album. On sentait aussi une tension assez importante parce qu'il y avait un pari, il ne fallait pas se planter et on le sentait tous. Francis Falsetto, le producteur, était aussi très concentré sur la production et voilà, il fallait qu'il y ait une renaissance quoi, artistique. Et au tout début, pas pendant les sessions d'enregistrement, mais au tout début pendant les répétitions, on sentait que Guerma était un peu fébrile parce que voilà, ça faisait 35 ans qu'il n'était pas venu en studio et donc son toucher au piano, sa voix était peut-être un peu au départ un peu fébrile et puis il s'est très vite repris et on sentait qu'il avait ça en lui depuis toujours. Je pense que c'était un rêve pour lui qui se réalisait quoi.
Quel était votre sentiment derrière la caméra en observant ce jeune septuagénaire échanger avec un groupe de musiciens français qu'il ne connaissait pas, Pierre ou Éric?
Bah, comme il le dit d'ailleurs très bien dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est qu'il se sent tellement jeune à l'intérieur de lui et je pense qu'il a jamais dans sa tête quitté les claviers, les studios et donc il y avait une connivence artistique et musicale, mais dès le premier jour, on était assez surpris nous de voir. Et puis Francis et Guerma se connaissent très bien.
C'est quand même Francis qui a été récupéré.
Parce que Francis est quand même le spécialiste des musiques éthiopiennes, c'est lui qui l'a convaincu de revenir. Donc non, c'était bon enfant, il y avait vraiment une belle ambiance tout de suite, mais voilà, il y avait cette espèce de crainte, parce que l'album s'est fait en un temps record.
Ça, c'est l'économie de l'industrie du disque aujourd'hui.
Bah, oui, parce qu'il y a une réalité économique. C'est un album qui est aussi autoproduit.
Comme je le disais il y a quelques instants, Guerma Beyene se révèle tout au long du film, et pour moi, l'une des premières manifestations de son désir de jouer, c'est à Fontenay-sous-Bois, en région parisienne.
Aujourd'hui, nous sommes ici parce qu'on fête les 20 ans de l'association Bourgeon. C'est une association qui lutte pour la scolarisation des enfants en Éthiopie. Et nous sommes très heureux d'accueillir donc Guerma Beyene parmi nous.
Mmh. c'est une nage qu'elle va rire. Et même pas manège. Oui, je ris d'Ethiopia. Anna Madima. Ethiopia, oui, ton Dieu. Mais t'es un peu caché.
Pierre Guillaulux, Éric Rebu, au début de cet extrait, on entend Léa Barrère, membre du conseil d'administration de l'association Bourgeon, qui parvient à convaincre Girma Beyene de chanter pour la petite communauté éthiopienne présente ce jour-là. Est-ce que vous avez senti que ce moment-là pouvait être une étape, le déclic qui allait le remettre en selle d'une certaine manière ?
Magique. C'était magique. On était dans cette association, il était un peu, comme le disait Éric, hésitant, il voulait pas, il hésite, voilà. Et puis on est arrivé dans l'association, il a rencontré des gens, des vieux amis à lui, il s'est un petit peu détendu. Et puis Léa, la fameuse Léa, est venue le voir en lui disant « mais venez chanter quelque chose », il n'osait pas. Et une fois qu'il a chanté, bah, les gens se sont rendus compte que c'était la star du swingadiste d'il y a 30 ans.
Comme il a disparu des écrans radars pendant 35 ans, bah, personne ne le connaît, surtout la jeune génération éthiopienne ne le connaît pas. Et donc quand il a interprété ce titre, c'est « Nken Yelelebesh » au piano, voilà, c'est « Tu es parfaite » en amharique, les gens dans le public ont compris en entendant sa voix que bah, c'était lui, c'était l'auteur de la chanson qui est un peu une chanson culte hein, en Éthiopie. Et du coup, il y a une espèce de ferveur, de folie dans la salle qui n'était pas du tout prévue. Et je pense que dans sa tête, il y a peut-être eu un petit déclic. Là. Il s'est dit, je peux encore donner ça à un public. Donc je pense que voilà, ça l'a en tout cas conforté dans le projet.
Avançons encore dans le temps et retrouvons-nous en studio pour ce qui deviendra Mistakes on Purpose, le nouvel album dont de Girma Beyene.
Oui, deux break.
Use the break. Bang. Okay. Okay. Good.
Right.
All right.
Right.
One, two,
right.
Two, one, two, three. Now we do the break.
Okay, yeah, I want to do that. My marital.
I like that.
I like that.
Quand on écoute la genèse de ce disque, on se dit que Francis Falsetto, le producteur, a du métier. Il a su déceler le potentiel de Girma Beyene et du groupe Akale Wube. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de ce monsieur dans l'industrie du disque, Pierre ou Eric?
Moi, je voulais parler de Pierre Dachery. Je me permets, parce que Pierre Dachery, c'est l'ingénieur du son.
C'est le sixième Akale Wube.
Ouais, on peut le dire. Et quand on entend là, l'extrait qu'on vient d'entendre, où c'est une répétition, le son est roots. Ça suinte, mais ça marche et on est vraiment dans, on est immergé dans quelque chose qui se fait, qui se fabrique, il y a une émulsion. C'est étonnant. Donc Pierre Dachery travaille merveilleusement bien.
Et Francis Falsetto alors,
Francis, Francis, c'est un petit peu, c'est le grand spécialiste de la musique éthiopienne dans le monde. Francis, c'est un ancien punk, hein, je crois. C'est quelqu'un c'est ça, qui est un musicographe, un amoureux, un music lover. D'ailleurs, il le dit souvent, c'est vraiment un music lover. Et là, il est tombé vraiment lui aussi en amour avec cette musique dans les années 85, je crois. Ouais. Et il s'est donné pour mission de déterrer un petit peu les enregistrements, d'aller à la recherche des musiciens d'origine pour essayer de rassembler toute cette musique sous un label. Il a créé la collection éthiopique avec Gilles Fruchot, donc du label Bouddha Musique. On salue au passage aussi Gilles qui nous a beaucoup
Gilles
aidé sur ce film. Et donc Francis, c'est un globetrotter, c'est un personnage haut en couleur en fait qui nous a. Bah, je pense qu'on peut dire que sans lui, on n'aurait pas pu faire le film puisqu'il nous a un petit peu ouvert les portes
c'est
de l'Abyssinie Swing.
Quoi. C'est l'homme voilà. Providentiel pour Girma et pour nous. Et
il nous a permis d'aller filmer Mahmoud Ahmed, Amaï Chete, qui est un autre énorme monsieur donc dans l'histoire de la musique éthiopienne moderne, dont on parlera peut-être évidemment
c'est
tout à l'heure.
C'est le producteur, ouais.
Mais voilà, Francis, c'est le personnage central sans qui l'aventure n'aurait pas pu avancer, quoi.
To what thing and do I wanna get rid but there's a sax at the chin. تزيتاش كذوني كنف نفيا رقا اونتو نقرشي
包括以前的年都会经营掉啊我那个人不得死也算是啊他们来信怎么没人同意比跟的不听话这是不是二八路放弃不跟了他都会经营掉啊我那个人不得死也算是啊他们来信
Un extrait de Mistakes on Purpose, le volume 30 de la collection éthiopique, c'était Girma Beyene. Un autre grand moment de votre film, messieurs, c'est le retour à Addis Abeba. Et là encore, Girma Beyene s'ouvre comme une fleur et se laisse porter par ses émotions, comme le confirment deux musiciens du groupe Akalegoubé, Loïc Réchard et David Georgelet.
Girma, quand il arrive en Éthiopie, il arrive devant des Éthiopiens qui connaissent les histoires de ses chansons. Et je pense qu'à un moment donné, c'était tellement fort pour lui et pour les gens, donc il lui renvoie toutes ces histoires, toutes ces émotions liées à ses chansons. Parfois, dans certains concerts, le groupe a pu se sentir à la limite passer au second plan.
Girma, il n'a pas de filtre. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas joué. S'il lui est arrivé quelque chose de mal dans l'après-midi, quand il va se retrouver au concert, il est sensible à n'importe quoi. S'il est trop enthousiaste, ben il va se mettre ce qui s'est passé au Fendika, il s'est mis à parler. Il nous a complètement oubliés. Il a oublié qu'on était un groupe, qu'on avait répété les morceaux, qu'on avait fait des arrangements. En même temps, on est frustré, on n'était pas content. Et après analyse, on ne peut pas lui en vouloir. Il se prend des décharges émotionnelles, surtout en Éthiopie, tellement fortes qu'à un moment, ça bug. Et il a suffi juste d'en reparler et le lendemain on était au Théâtre National et c'était le plus beau des concerts qu'on ait fait.
Pierre Guillot, Lux et Eric Rebut, même si les images et la réalisation magnifient l'histoire de Girma Beyene, est-ce que vous étiez parfois pendant le tournage spectateur de votre propre film ?
Bah là, c'est l'exemple même. On est spectateur de notre propre film. C'est la séquence que vous venez de passer où voilà, bah, ils le disent très bien. Loïc et David, Girma est un peu parti en live. Je pense que c'est pour une décharge d'amour trop forte pour lui devant ce public à Addis où il était parvenu depuis plusieurs années, en tout cas
au Fendika. Ouais.
Au Fendika. Et là, donc, nous, on était effectivement assez gênés pour les musiciens parce que ils ont l'intro du morceau, ils la font 6 ou 7 fois, je pense.
Et il démarre toujours pas.
Il démarre pas et Girma enchaîne gag sur gag où il raconte n'importe quoi, il fait marrer tout le monde. Parce qu'en fait, il est quand même assez drôle, quoi. Enfin, il est facétieux et en même temps, il parle de souvenirs de sa femme. Enfin, donc, c'est un espèce de mélange.
Il a un petit peu ce côté Azmari, hein, Ménestrel, hein, le barne,
voilà,
qui parle, qui est accompagné. Là, il a simplement 5 musiciens qui l'attendent. Et lui, il part en vrille. Et comme tu disais, c'est la décharge. Il revient en Éthiopie, il revient comme un peu une star reconnue. Mais c'est le Fendika en plus, c'est extraordinaire. On peut saluer Melaku.
Melaku Belek est un autre personnage extraordinaire qu'on a rencontré. En Éthiopie, mais bon, on en reparlera peut-être. Et oui, voilà, donc c'était une expérience assez incroyable et pas prévue. Et voilà, là, on était spectateurs un petit peu de ce qu'on tournait. Mais le lendemain, comme dit David, il y avait le fameux concert au Théâtre National. Et là, ça a été énorme. Mais il a fallu effectivement qu'ils en reparlent un petit peu avec Girma pour le recadrer un peu. C'est-à-dire là, tu nous fais plus ça, en tout cas, dans la salle géante du Théâtre National.
Qu'est-ce que vous avez appris de la culture musicale éthiopienne en réalisant ce film, Pierre ?
Forcément, déjà... Nous, on était très passionnés de jazz, donc l'éthio-jazz, c'était un peu une découverte de cette musique traditionnelle éthiopienne, influencée par la soul américaine quand même, influencée par la musique latine, tout ça avec toujours le langage amharique. Cette culture, elle est incroyable, mais elle est très liée à l'histoire aussi politique du pays. Hein. Seul pays à n'avoir jamais été vraiment colonisé, puisque l'Italie qui a tenté, mais qui n'a pas vraiment réussi. Non, ils ont quand même une indépendance, un orgueil, une vraie personnalité que Francis connaît bien puisqu'il y va souvent, et il en parle plutôt pas mal aussi, de ce pays étonnant. C'est vraiment un pays très puissant. Maintenant, quand on y a été, il y a une misère assez conséquente qui nous a beaucoup touchés et troublés. Personnellement, ça m'a troublé.
Mais votre film reste un film, je dirais, romantique, même s'il y a un long passage justement sur le contexte politique de l'Éthiopie. Mais ça reste quand même un film romantique, je trouve.
C'est vrai qu'on ne voulait pas en faire un film politique. On aurait pu, d'ailleurs, certains producteurs essaient de nous inciter à en faire plus un film qui reflète la politique du pays actuel, etc. Mais nous, ce qui nous a séduit dès le début, c'était l'histoire de Girma et puis de son histoire d'amour. En fait, on a voulu faire un film, effectivement, comme vous dites, très romantique, en fait, parce que c'est la veine qui irrigue tout le film du début à la fin. C'est cette espèce de puissance de cet amour sans borne qui a fait que... voilà, il a pu lâcher complètement sa passion 35 ans durant, uniquement parce que sa muse n'était plus là. Donc enfin, c'est vrai que l'histoire est vraiment touchante et ça nous faisait notre trame scénaristique finalement. On n'avait pas besoin d'en rajouter. On est obligé de parler un peu de la politique, voilà, de ce qui s'est passé dans le pays parce que ça accompagne les événements. Mais voilà, on voulait d'abord faire avant tout un film romantique.
Et puis ça vous emmène aux États-Unis. L'un des personnages clés de votre film, c'est Arma Echete. Qui est ce monsieur et que vous a-t-il raconté ?
On l'a rencontré en Éthiopie, Ama Echete. Ama Echete, c'est le producteur qui est un des premiers à avoir un petit peu, sous le régime Selassie, à l'époque où c'était uniquement des énormes orchestres militaires qui pouvaient jouer. Et c'est lui qui a un petit peu contrecarré la chose et qui était producteur, qui était chanteur avant d'ailleurs. Ama Echete était chanteur et qui a décidé de sortir des disques, des productions un petit peu artisanales au début, mais... pendant ce fameux Swinging Addis, il a contrecarré un peu le régime.
Et c'est lui d'ailleurs... c'est le personnage clé qui a créé un petit peu la musique éthiopienne moderne. Parce qu'avant, comme disait Pierre, c'était les orchestres de la police. Mmh. C'était les seules musiques qui existaient jusqu'à 69. Ouais, puis, effectivement, il a pris des risques, hein, Ama, puisqu'il a créé en cachette son propre label. Ama Records. Et ça a été une traînée de poudre. C'est-à-dire que tout à coup, ça a explosé dans les rues. Enfin, mais c'est une histoire assez insensée, parce qu'il a failli faire de la prison. Son ingé son était parti en prison. Enfin bref, c'était...
D'ailleurs, c'est lui qui nous a parlé. C'était le moins pudique de tous. Hein. Soyons honnêtes, les Éthiopiens sont assez... renferment un peu le secret de... Ils adorent leur pays, ils adorent leur politique de leur pays. Mais ils ont un problème quand on leur pose des questions sur la politique. Et lui, il s'est lâché. Il a vraiment...
Effectivement, c'est le seul. Parce que les Éthiopiens n'aiment pas parler de tous les sujets qui fâchent, en fait. Mais Ama, lui, avait une parole très libre. Et voilà, il nous a expliqué vraiment comment il a outrepassé le décret impérial de l'époque pour créer son label. C'est quelqu'un de très débrouillard parce qu'il a été pressé... vinyles en Grèce, en Inde. Il en a bavé quoi, pour faire ce qu'il a fait, et c'est lui qui a découvert toutes les stars de l'époque, Alemayou Echete, qu'on appelle Alemayou Echete, c'est le James Brown Addison. Donc on a voulu le voir, lui, parce que c'était vraiment un personnage, mais il était hélas malade quand on était en Éthiopie, on n'a pas pu. Mahmoud Ahmed, qui est la star éthiopienne, avec Moulatou Astaké, évidemment. Tous ces gars-là sont passés entre ses mains, et c'est vraiment lui qui a créé un petit peu tout ça. Donc c'était un privilège de pouvoir lui parler. C'est vrai qu'il nous fait un peu le fil rouge de tout ce qui est un peu historique. Et encore une fois, ça c'est grâce à Francis qui le connaît évidemment et qui nous a introduit dans son univers. Ouais.
Qu'est-ce que vous êtes allé chercher aux États-Unis ?
Le fameux fil conducteur, fil rouge qui nous manquait, le témoignage de sa fille qui vit aux États-Unis et qui nous a raconté la base un petit peu de cette histoire d'amour. C'est-à-dire qu'au moment où Girma part, grâce à Ama d'ailleurs, c'est Ama qui le fait venir à Washington. Il y a un exil d'artistes assez important, après que le Derg passe un petit peu et la maîtrise du pays. Et du coup, ils sont tous exilés à Washington. Ils tentent une carrière aux États-Unis et ça ne se passe pas très très bien. Il fait venir sa femme et sa fille. Et malheureusement, aux États-Unis, sa femme décède. Et du coup, il arrête la musique et il s'occupe de Lily. Pour subvenir à ses besoins, pour qu'elle puisse faire des études. Enfin voilà, il devient un père qui s'occupe de sa fille.
Qui fait des petits boulots.
Il est pompiste. Je pense qu'il y a d'autres métiers dont il ne nous a pas parlé. Voilà. Il délaisse la musique, en tout cas, il n'en vit plus. Mais lui, il s'occupe de sa fille, c'est le plus important, c'est sa lumière.
Donc pour nous, c'était essentiel d'avoir le témoignage de Lily, qu'on a retrouvé. Elle est actrice à New York, elle vivait à Washington, maintenant elle vit à New York. Là aussi, c'était vraiment une chance, parce qu'on n'était pas sûr de la retrouver, parce qu'elle ne répondait pas vraiment à... Enfin, c'était quelque chose d'assez difficile pour elle de parler de son père et de sa mère. Et en fait, on l'a retrouvée au concert que Girma donnait, et puis elle a bien voulu nous parler. En fait, elle a ouvert les vannes, et c'était super déchirant pour elle et pour nous. En tout cas, c'est une séquence... assez essentiel du film.
Il y a des images frissonnantes dans votre film quand Guirma Beyene et sa fille Lily s'éloignent dans la nuit américaine, par exemple, ou encore quand au festival Banlieue Bleue, un chœur d'enfants accompagne Guirma Beyene dans le final de son concert à Bobigny, en région parisienne. C'est juste merveilleux. Et c'est d'ailleurs ainsi que nous allons clore cette émission.
All my songs, I can say, is for my queen, my best friend, Saganet.
Stand up! Arangua, Dead Lake, Najat Messil Beach, Messayan, yes, get it right there, though. Yeah, leave hands up. Right, right. One more time, right.
Ce que vous écoutez actuellement illustre les dernières images de My Beautiful Guirma, le film très recommandable de messieurs Pierre Guillaulux et Éric Rebu, que je remercie d'être passé nous voir pour évoquer cet épisode de l'épopée des musiques noires. Est-ce que vous savez ce que devient Guirma Beyene ?
Guirma, il continue à enchaîner les concerts avec Akaleoué. Là, ils ont plusieurs dates en mars en Amérique du Nord, donc il y a plusieurs villes. Donc ça marche vraiment, l'album a vraiment bien fonctionné et il y a pas mal de dates, donc c'est vraiment un retour en grâce pour Guirma et puis le projet vit sa vie. Il y aura peut-être un autre film à faire sur la suite maintenant. Non, mais on est content pour eux parce qu'en tout cas, ils enchaînent les concerts, il y a des tourneurs, enfin voilà, il y a un vrai engouement, quoi.
Vous êtes devenus des amis ?
Je pense que à chaque fois qu'on se voit, en tout cas, on se prend dans les bras, on s'embrasse à la Maric, c'est-à-dire que c'est des empoignades.
Il a aimé le film.
Je pense qu'il a été, oui, il a été surpris par le côté sincère du film et puis les séquences avec sa fille. Enfin voilà, tout ça l'a beaucoup ému et je pense qu'on est, oui, on est proche, quoi. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et quand il est en France, on essaye de se voir. Je voulais dire un mot sur François Feffre aussi, on l'a pas cité, qui nous a quand même permis de finaliser le film, qui est arrivé dans le dernier tiers de la production et qui est assez dynamique là maintenant et on a le film va passer sur TV5 Monde. Il y a plusieurs chaînes qui sont intéressées, donc salut François qui fait un beau travail pour le film.
En tout cas, ce fut un bonheur de converser avec vous aujourd'hui, messieurs. Merci beaucoup pour ce film et merci d'être passé nous voir ici à Paris pour évoquer à la fois Guirma Beyene et votre film.
Merci beaucoup.
Merci Joe, merci.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Pierre ?
Oui, je voulais à nouveau, moi aussi, remercier François, qui a été le seul coproducteur à croire en notre projet, qui va le vendre partout dans le monde. Remercier Aurore et Pierre Montali. Remercier aussi Yamile et Shali Bangana de l'Ermitage, qui accueillent la plupart des concerts de Guirma et d'Akalé. Et surtout, on voulait remercier de tout cœur le troisième homme, Elvis Gigi, notre chef opérateur qui nous a accompagnés sur tous les tournages et qui a été d'une grande aide. Donc, merci à toi, Elvis. Remercier nos proches et ceux de près ou de loin qui nous ont soutenus, car ça en valait vraiment la peine. Nous avons été jusqu'au bout de cette belle histoire.
Merci à vous deux. Je tiens à saluer de mon côté mon confrère et ami Mathias Golshani de RFI, qui fut le premier à me parler de votre film et qui m'a permis de le voir en avant-première. La semaine prochaine, nous accueillerons le guitariste et chanteur Bai Camara Jr., originaire de Sierra Leone, qui sera en concert le 14 mars prochain au Méridien Étoile à Paris. Une dernière recommandation discographique avant de se quitter, le label World Circuit vient de rééditer l'un des albums majeurs du regretté chanteur cubain Ibrahim Ferrer, Buenos Hermanos, avait été produit par le guitariste américain Ry Cooder en 2003 et avait reçu le Grammy du meilleur album de musique tropicale la même année. Le disque est à nouveau disponible depuis le 28 février. Ne vous en privez pas. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.